Du modèle chinois et du dépassement de la démocratie parlementaire. Concluons en notant que le régime chinois s'appuie également pour perdurer sur les faiblesses des autres modèles. Après avoir tiré les leçons des échecs du soviétisme et du maoïsme, le régime entend maintenant ne pas répéter les erreurs des démocraties électorales et parlementaires occidentales. La lecture du Global Times, organe officiel, est de ce point de vue très instructive, notamment depuis le référendum sur le Brexit et l'élection de Donald Trump. On y dénonce à longueur de colonne les dérives nationalistes, xénophobes et séparatistes qui caractériseraient les pays occidentaux, ainsi que le détonnant cocktail de vulgarité, télé-réalité et argent roi, auquel mèneraient inévitablement les prétendues élections libres et les merveilleuses institutions politiques que l'Occident voudrait imposer au monde. On insiste également sur le respect avec lequel les dirigeants chinois s'adressent à la planète, et en particulier aux dirigeants des pays africains, régulièrement qualifiés de « shit countries » par le président des États-Unis, leader supposé du monde libre. La lecture de ces textes est instructive, et elle conduit de facto à s'interroger sur la prétendue supériorité civilisationnelle et institutionnelle des démocraties électorales occidentales. L'idée selon laquelle les valeurs et les institutions démocratiques occidentales auraient atteint une sorte de perfection unique et indépassable a clairement quelque chose d'absurde. Le régime parlementaire, avec des élections au suffrage universel direct tous les 4 ou 5 ans, permettant de choisir des représentants qui ont ensuite le pouvoir d'écrire la loi, constitue une forme spécifique et historiquement déterminée d'organisation politique. Celle-ci a ses vertus et aussi ses limites, qui doivent être sans cesse réinterrogées et dépassées. Parmi les critiques traditionnellement adressées aux institutions parlementaires occidentales par les régimes communistes, notamment russes et chinois, deux méritent une attention particulière. La première est que l'égalité des droits politiques est une illusion, dès lors que les médias d'information sont capturés par les puissances d'argent, qui vont ainsi pouvoir prendre le contrôle idéologique des esprits et permettre aux inégalités de perdurer. La seconde est étroitement liée à la première. L'égalité politique reste théorique si le financement des partis politiques permet aux plus riches d'exercer une influence sur les programmes et les politiques suivies. Cette crainte d'une capture du processus politique par les plus riches s'est exprimée de manière particulièrement forte aux États-Unis depuis les années 1990-2000, dans un contexte où la Cour suprême a fait voler en éclats la quasi-totalité des limites à l'usage de l'argent privé en politique. Mais il s'agit en réalité d'un problème de portée beaucoup plus large. De façon générale, notons que cette question du financement des médias et des partis politiques n'a jamais été véritablement pensée dans toutes ses implications. La plupart des pays ont certes mis en place diverses législations visant à limiter la concentration des médias ou réguler les financements politiques. Mais ces dispositifs ont généralement été très insuffisants et très en deçà de ce que l'exigence d'égalité des droits à la participation politique impliquerait, sans compter que les retours en arrière ont été nombreux, notamment au cours des dernières décennies, en particulier aux États-Unis et en Italie. En s'appuyant sur les leçons de l'histoire, il est toutefois possible de dégager des solutions nouvelles, permettant d'une part de développer des médias non lucratifs et participatifs, et d'autre part d'assurer l'égalité des citoyens face au financement des mouvements politiques. Nous y reviendrons. En tout état de cause, il paraît bien difficile d'utiliser l'argument de la capture des médias ou des partis politiques par les forces de l'argent pour justifier la suppression pure et simple des élections, ou bien le contrôle des candidatures par un comité en fonction de leur compatibilité avec le parti au pouvoir. Ce type d'argumentation a notamment été tenu par les dirigeants communistes russes et est-européens pendant toute la durée de leur existence pour se maintenir au pouvoir sans concurrence électorale réelle. Rien dans ces expériences ne permet de penser qu'il faudrait songer à les renouveler. On trouve également de nombreux régimes dans l'histoire qui utilisent l'argument de la mainmise de l'argent sur le processus démocratique pour brutaliser ce même processus. Par exemple, en transformant les médias publics en instruments de propagande, officiellement afin de compenser la propagande opposée diffusée par les médias privés, et parfois en refusant les résultats de certaines élections. On pense par exemple au régime bolivarien au pouvoir au Venezuela sous la présidence de Chavez de 1998 à 2013, puis de Maduro depuis 2013. Ce régime se présente sous une nouvelle forme de socialisme de type plébiscitaire, au sens où il se propose d'utiliser l'argent du pétrole de façon plus sociale et égalitaire que les gouvernements précédents, ce qui n'est pas très difficile vu les pratiques oligarchiques antérieures, mais tout de même important, tout en reposant sur un pouvoir personnel et étatique hyper centralisé et autoritaire, régulièrement validé par des consultations populaires et par un dialogue direct avec le peuple. On pense à la fameuse émission « Allô Presidente » de la télévision publique, où Chavez s'adressait seul chaque dimanche à la population du pays pendant la plus grande partie de la journée. Le record de durée dépasse 8 heures. Après avoir remporté de nombreuses élections et résisté à une tentative de coup d'État en 2002, au cours de laquelle les putschistes reçurent le soutien des États-Unis, et après de multiples péripéties dont le récit dépasserait de beaucoup le cadre de ce livre, le pouvoir bolivarien finit par perdre sans détour les élections législatives de 2015. Il refusa de s'y soumettre, d'où une crise grave et violente sur fond d'hyperinflation et d'effondrement économique toujours en cours en 2019. Le cas de la relation de Chavez avec les médias est intéressant, car il est peu contestable que les médias privés dominants au Venezuela, de même que dans plusieurs pays en Amérique latine et ailleurs dans le monde, ont souvent été biaisés en faveur de la vision du monde défendue par leurs propriétaires, et aussi de leurs intérêts financiers, généralement liés à l'exploitation privée et hyper inégalitaire des ressources pétrolières en lien avec les grandes compagnies occidentales. Pour autant, s'appuyer sur une telle réalité pour prendre le contrôle des médias publics, puis pour refuser les résultats électoraux quand ils ne conviennent pas, n'est pas une réponse satisfaisante. Outre qu'elle ne peut au final que renforcer l'idéologie propriétariste que l'on prétend combattre, comme cela se produit actuellement, cette réponse par la brutalisation des institutions démocratiques et l'hypercentralisation du pouvoir ne résout rien. Il est plus prometteur de réformer radicalement le système de financement et de gouvernance des médias et des partis politiques, de façon à permettre à chaque sensibilité de s'exprimer sur une base égalitaire, une personne, une voix, et non pas un dollar, une voix, tout en respectant la diversité des points de vue et le besoin de l'alternance. Nous y reviendrons. La démocratie électorale, la frontière et la propriété. La question du rôle de l'argent dans le financement des médias et des partis, aussi importante soit-elle, n'est pas la seule critique qui peut être adressée aux régimes électoraux et parlementaires occidentaux, tant s'en faut. Supposons que le problème de l'égalité d'accès aux médias et au financement politique soit entièrement réglé. La théorie démocratique occidentale serait toujours confrontée à trois limitations conceptuelles majeures. Pour résumer, il lui manquerait toujours une théorie de la frontière, une théorie de la propriété et une théorie de la délibération. La question de la frontière est évidente. Sur quel territoire et au sein de quelle communauté humaine la loi de la majorité est-elle supposée s'appliquer? Suffit-il qu'une ville, un quartier, une famille décident majoritairement de faire sécession pour s'absoudre de la loi de la majorité et devenir un État souverain et légitime au sein duquel s'exercera la loi de la majorité de la tribu? La peur de l'escalade séparatiste sans fin et sans limite a toujours été l'argument principal utilisé par de nombreux régimes politiques autoritaires pour refuser les élections. Cela vaut notamment pour le régime chinois, dont l'identité s'appuie pour une large part sur la capacité à faire cohabiter pacifiquement une vaste communauté de 1,3 milliard d'êtres humains, à l'opposé des haines tribales qui minent l'Europe depuis toujours, ce qui, aux yeux du régime de Pékin, justifie le refus des prétendues élections libres qui ne feraient en réalité qu'aiguiser les passions identitaires et nationalistes. Cette réponse chinoise est intéressante. Mais il s'agit, là encore, d'une réponse fragile à une vraie question. Une réponse plus satisfaisante consisterait à articuler une théorie transnationale de la démocratie, fondée sur un social-fédéralisme démocratique et la construction de normes de justice socio-économique au niveau régional puis mondial. La tâche est tout sauf simple, mais il n'existe pas beaucoup d'autres options. La question de la propriété pose des défis tout aussi redoutables à la théorie démocratique occidentale. La loi de la majorité peut-elle conduire à une redéfinition et une redistribution complète et immédiate des droits de propriété? Dans l'absolu, il n'est certes pas absurde de fixer des règles et des procédures, par exemple sous forme de majorité qualifiée, permettant d'inscrire dans la durée certains aspects du système légal, social, fiscal et éducatif, et d'éviter des changements trop brutaux, sans pour autant bloquer le changement socio-économique lorsque son besoin est largement partagé. Le problème est que cet argument a été abondamment utilisé par les idéologies propriétaristes pour inscrire dans les constitutions des règles empêchant de facto toute possibilité d'une redéfinition des droits de propriété dans un cadre légal et apaisé, y compris dans des situations extrêmes d'hyperconcentration, ainsi d'ailleurs que dans des situations où les modes d'appropriation initiale sont particulièrement douteux, voire totalement indéfendables. On pense aux appropriations nobiliaires débattues lors de la Révolution française ou autour de la question irlandaise au XIXe siècle au Royaume-Uni. Voir chapitres 3 à 5, aux appropriations esclavagistes et coloniales, voir chapitres 6 à 9, ou bien aux appropriations de ressources naturelles et d'entreprises publiques par des oligarques russes ou chinois évoqués dans le présent chapitre. On remarquera également que ce même argument de la stabilité a aussi été utilisé par divers régimes à partie unique pour justifier que certaines décisions, en particulier le régime de propriété publique des moyens de production, soient placées en dehors du débat électoral, voire pour supprimer purement et simplement les élections, ou pour soumettre les candidatures à un comité ad hoc. Cela va d'ailleurs au-delà des régimes communistes au sens strict. Lors des indépendances africaines, de nombreux pays mirent en place des systèmes de partis uniques, au moins provisoirement, parfois pour éviter le séparatisme et la guerre civile, et parfois aussi au prétexte qu'il était impossible de juger des effets de certaines politiques sociales ou économiques au bout de 4 ou 5 ans seulement. Sans aller jusque-là, les systèmes de retraite et d'assurance maladie mis en place dans la plupart des social-démocraties européennes reposent sur des gouvernances complexes, laissant une large place aux caisses de sécurité sociale et aux syndicats. Cela a permis, dans une certaine mesure, d'immuniser ces systèmes sociaux face aux retournements électoraux. Une majorité parlementaire suffisamment importante et durable peut reprendre le contrôle de ces dispositifs, mais cela demande une légitimité électorale et démocratique particulièrement forte. De façon plus générale, il est permis de penser que les réflexions autour de la question de la constitutionnalisation des droits sociaux, de la justice éducative ou encore de la progressivité fiscale mériteraient d'être poussées plus loin. À toutes ces questions, complexes et légitimes, le régime chinois a une réponse. C'est en s'appuyant sur de solides corps intermédiaires, tels que le PCC, autour de 90 millions de membres en 2015, soit environ 10% de la population adulte, qu'il est possible d'organiser la délibération et la prise de décision, et de concevoir un modèle de développement stable, harmonieux et réfléchi, à l'abri des pulsions identitaires et des forces centrifuges du supermarché électoral occidental. Cette position a été par exemple exprimée avec force lors d'un colloque organisé en 2016 par les autorités chinoises sur le rôle des partis politiques dans la gouvernance économique mondiale, et on la retrouve régulièrement sur le site du Global Times. On notera que ces effectifs très importants du PCC correspondent approximativement à la participation totale observée lors des élections primaires permettant de désigner les candidats des partis aux élections présidentielles aux États-Unis et en France, autour de 10% de la population adulte dans les deux cas lors des dernières élections. Les effectifs de militants dans des partis politiques dans les pays occidentaux sont nettement inférieurs, généralement quelques pourcents de la population tout au plus. La participation aux élections générales, législatives ou présidentielles, est en revanche nettement supérieure. Généralement plus de 50%, même si la chute au cours des dernières décennies est impressionnante, notamment au sein des catégories populaires. Dans tous les cas, l'argument chinois s'appuie sur l'idée selon laquelle la délibération et la prise de décision au sein d'une organisation telle que le PCC serait plus profonde et réfléchie que la démocratie de la place publique à l'occidental. Au lieu de s'appuyer sur quelques minutes d'attention superficielle tous les 4 ou 5 ans de la part de tous les électeurs, comme le pratique la démocratie électorale occidentale, la démocratie partidaire et encadrée à la chinoise reposerait sur une minorité significative constituée des membres du parti, en l'occurrence environ 10% de la population, pleinement impliqués et informés et délibérant longuement et collectivement pour le bien du pays. Un tel système serait mieux à même de trouver des compromis raisonnables pour le bien du pays et de la communauté dans son ensemble, en particulier sur les questions de frontières et de propriété. Une illustration intéressante de la croyance chinoise dans la capacité de la démocratie encadrée à régler les questions de frontières plus efficacement que la démocratie électorale est fournie par le récit que fait de son parcours Hu Xijin, actuel rédacteur en chef du Global Times. Jeune étudiant fortement mobilisé lors des rassemblements de Tiananmen en 1989, il raconte avoir été traumatisé par le soudain démantèlement de l'Union soviétique et davantage encore par les guerres séparatistes et tribales de Yougoslavie qui auraient démontré à ses yeux la nécessité du rôle apaisant du parti et l'impossibilité de laisser aux passions électorales le soin de prendre de telles décisions. On notera également qu'une des accusations les plus classiques et aussi les plus aiguisées du régime de Pékin à l'encontre des militants pro-démocratie de Hong Kong est leur supposé égoïsme, en particulier quand ils manifestent leur opposition, ou tout du moins leur réticence, vis-à-vis de l'immigration venue de républiques populaires. Autrement dit, leur prétendu amour de la démocratie et des élections libres aurait surtout pour objectif de préserver l'entre-soi au sein de leur cité-État de privilégiés. En l'occurrence, on notera que la revendication indépendantiste est en réalité minoritaire au sein du mouvement hongkongais et que la demande principale porte avant tout sur la démocratie au sein d'un ensemble chinois fédéral et démocratique, s'appuyant à la fois sur la libre circulation des personnes et le multipartisme, perspective qui est clairement refusée par le PCC. Du parti unique et de la réformabilité de la démocratie encadrée. Un autre argument chinois essentiel consiste à soutenir que le PCC s'appuie sur toutes les couches de la population. Le système permettrait ainsi d'organiser la concertation et la participation au sein d'un ensemble de personnes certes minoritaires au sein de la société chinoise, mais plus motivées et déterminées que la moyenne des citoyens, grâce au système de cooptation et d'entretien nécessaire pour être admis dans le parti, et en même temps plus profondément représentative de la population que ne le sont les partis occidentaux et la démocratie électorale et parlementaire. De fait, d'après les données disponibles sur les quelque 90 millions de membres du PCC en 2015, environ 50% sont des ouvriers, employés et paysans, 20% des retraités et 30% sont des cadres administratifs et techniques des entreprises et de l'État. La part des cadres est certes supérieure à ce qu'elle est dans la population du pays, entre 20 et 30%, mais l'écart n'est pas très élevé et moins important que dans la plupart des partis occidentaux. Tout cet argumentaire sur les plus grandes qualités et représentativité de la délibération au sein de la démocratie partidaire et encadrée à la chinoise est intéressant et potentiellement convaincant d'un strict point de vue théorique. Mais il se heurte tout de même à de sérieuses difficultés. Tout d'abord, il est bien difficile de connaître la réalité du rôle joué par ces ouvriers, employés et paysans dans le fonctionnement effectif du parti au niveau local. Au niveau le plus élevé, c'est-à-dire celui de l'Assemblée nationale populaire, ANP, qui est la structure législative fondamentale dans la constitution chinoise, et plus encore au niveau de son comité permanent, qui exerce la réalité du pouvoir entre les sessions annuelles de l'ANP, on constate une surreprésentation spectaculaire des milieux d'affaires et des milliardaires chinois. La presse occidentale a souvent fait état de ces éléments pour montrer l'hypocrisie du régime chinois, plus proche de la ploutocratie, le pouvoir de l'argent, que du communisme et de ses cellules délibératives et socialement représentatives. La critique est assez juste. On notera toutefois que les données disponibles restent assez imprécises. D'après les éléments recueillis, la surreprésentation des personnes fortunées au sein de l'Assemblée nationale populaire de Chine, qui est massive et incontestable, n'est peut-être pas beaucoup plus forte qu'au sein du Congrès des États-Unis d'Amérique, ce qui n'est pas particulièrement rassurant. Elle semble en revanche beaucoup plus forte que ce que l'on observe en Europe, où les assemblées brillent pourtant par une sous-représentation extrême des classes populaires, mais où ce sont davantage les professions intellectuelles et libérales que les milieux d'affaires et les hauts patrimoines qui sont sur-représentés. En tout état de cause, L'idée selon laquelle la démocratie encadrée à la chinoise serait parvenue à impliquer toutes les couches de la population d'une façon plus représentative que les démocraties électorales occidentales ne semble guère étayée. De façon plus générale, l'idée chinoise d'une délibération approfondie au sein d'une minorité éclairée de membres du parti pose en l'état actuel des choses un problème majeur. Elle ne laisse pas de traces, si bien que personne dans le reste du pays, et a fortiori dans le reste du monde, ne peut constater par lui-même la réalité de ces délibérations et prises de décision, et ne peut par conséquent se faire une opinion sur l'éventuelle légitimité de modèles délibératifs partidaires. Il pourrait en aller autrement. Les débats menés entre les membres du parti pourraient être entièrement publics, et surtout, les décisions et choix de candidats pourraient donner lieu à des votes concurrentiels et ouverts. Mais rien n'indique à ce stade une évolution imminente du régime dans cette direction. Il existe également d'intéressants exemples historiques où des systèmes à base de partis uniques ont progressivement autorisé des candidatures venues d'autres partis et groupes d'opinion. On pense par exemple au Sénégal, qui fonctionnait suivant un système de partis uniques depuis l'indépendance jusqu'à ce que la réforme constitutionnelle de 1976 introduise graduellement la possibilité pour d'autres courants idéologiques dûment répertoriés de présenter des candidats. Les premières élections pseudo-libres menées dans les années 1980 étaient largement gagnées d'avance par le Parti socialiste, ex-parti unique du président Senghor. Mais elles devinrent de plus en plus disputées dans les années 1990 et aboutirent finalement à une alternance démocratique avec la victoire du Parti démocratique sénégalais, PDS, d'Abdoulaye Wade, aux élections de 2000. Sans chercher à idéaliser cette expérience, cette trajectoire illustre la multiplicité des formes que peuvent prendre les transitions politiques. Pour résumer, la démocratie partidaire et encadrée à la chinoise est très loin d'avoir apporté la démonstration de sa supériorité sur la démocratie électorale et parlementaire à l'occidentale, en particulier du fait de son manque flagrant de transparence. La très forte croissance des inégalités en Chine et l'opacité extrême qui les caractérise suscitent également de sérieux doutes quant à la réalité de l'implication des classes populaires chinoises dans le processus délibératif et socialement représentatif que le PCC prétend incarner. Il n'en reste pas moins que les multiples critiques adressées par le modèle chinois aux systèmes politiques occidentaux doivent être prises au sérieux. Outre la mainmise de l'argent sur les médias et les partis, et les difficultés structurelles rencontrées face à la question de la frontière et de la propriété, il est indéniable que les institutions parlementaires tendent de plus en plus à être dominées par diverses formes de huis clos et d'entre-soi au niveau de l'Union européenne comme aux États-Unis. En tout état de cause, la logique représentative demande à être complétée par des dispositifs de délibération et de participation qui aillent au-delà du simple bulletin de vote tous les 4 ou 5 ans. Les formes concrètes de la démocratie sont encore et toujours à réinventer. Et la confrontation sereine des modèles et des expériences historiques peut naturellement y contribuer à condition de dépasser les crispations identitaires et les arrogances nationalistes.